Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Le prisme des marchés, c'est par lui qu'on vous propose de voir le monde. Chaque après-midi de 15h30 à 18h, BFM Bourse, 100% uploadé, enclenché jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, si vous nous joignez en direct, tous nos experts sont mobilisés. Aude Kersulec d'ailleurs nous accompagne. Bonjour, rebonjour Aude, depuis la Tour Rolex, la salle de contrôle du CAC 40. Vous avez fait vivre en quasi-direct tout à l'heure, c'était aux alentours de 15h40, ce nouveau record aujourd'hui, nouveau plus haut historique. Mesdames, Messieurs, pour l'indice CAC 40 cet après-midi, Aude.
C'était 8230 points. On l'a battu d'un petit point, le précédent record historique qui datait de la semaine dernière. Mais là, on est légèrement redescendu depuis un petit peu plus d'une heure. On est à 8200 points tout juste. Il faudra qu'on clôture quand même légèrement au-dessus de 8200 points. Ce serait bien, on progresse seulement de 0,2%. Alors, cette salve de record, on l'a vu quand même un peu partout en Europe parce que ça a été le cas à Francfort, ça a été le cas à Milan, sur l'Eurostock 50, le Stoxx 600. Donc on ne fait pas grand chose forcément sur les marchés, mais progresser un petit peu, ça suffit pour aller franchir les plus hauts historiques. Et c'est vrai qu'au niveau des valeurs, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On monte sous la pulsion des valeurs à profil défensif aujourd'hui. Veolia, Orange, il faut aller du côté de la Suède, voir H&M qui flambe de 16%.
Effectivement, grâce à sa publication, incroyable publication d'H&M qui bat complètement les anticipations, le consensus, notamment sur sa marge brute, ce titre H&M cartonne à plus 16% en ce moment, valeur phare à suivre aujourd'hui en Europe. Mais c'est vrai que plus globalement, le marché est calme, sacrément calme. Est-on dans une période anormalement calme? Faut-il avoir peur de l'absence de peur en ce moment sur le marché? On va poser la question dans un instant à nos experts du club. Pendant ce temps, en Allemagne, les perspectives continuent de se dégrader. Les principaux instituts économiques abaissent leurs prévisions de croissance pour l'Allemagne cette année. On va en parler. Et puis le cacao. Sur des plus hauts historiques, le cacao. Alors bien sûr, on va en parler à quelques jours de Pâques, mais on est dans BFM Bourse. On va aussi dessiner des perspectives concrètes en tenant compte de ce qu'est le marché du cacao. Ce sera au cœur de la Data Room à partir de 17h25. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et notez que le groupe de médias de Donald Trump, qui s'est introduit hier en bourse, en hausse de plus de 30% hier pour sa première séance de cotation, continue de flamber, plus 15% encore aujourd'hui pour ce titre, le groupe de médias de Donald Trump. Parmi ses joyaux, en tout cas ses actifs, il y a ce réseau social Social Truth, dont Donald Trump s'enorgueillit, dont il est très très fier à quelques mois de la présidentielle. Ça marche bien en bourse, effectivement, pour l'instant les investisseurs sont au rendez-vous. Nouvelle hausse donc de 15% pour son groupe de médias, le Trump Media and Tech Stock. Nos experts du club sont là, nos coéquipiers, nos clubbeurs. Étienne de Marsac, président de Monakea Capital. Bonsoir Étienne, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Et Sophie Chevalier, bonsoir Sophie.
Bonsoir Guillaume.
Ravi aussi de vous retrouver pour Dorval Asset Management. Sophie, les marchés montent, on a un nouveau record aujourd'hui sur le CAC 40, nouveau plus haut historique aujourd'hui sur le DAX, également à la bourse de Milan, l'indice de Milan, également sur l'Eurostock 50, et puis nouveau record aussi aujourd'hui cet après-midi sur l'Eurostock 600. Il y a des records partout. Et pourtant, les variations restent extrêmement faibles. Là, à Paris, en direct, on ne gagne que 0,2%. C'est la question de la semaine. Les volumes, en plus, sont très faibles cette semaine. Est-ce que le marché progresse en dormant? Est-ce que le marché dort debout, désormais?
Moi, je dirais plutôt qu'il ne baisse pas. Il continue son ascension, tranquillement. On a fini la période de publication. La prochaine période va arriver assez rapidement. Et là, on est un petit peu dans un entre-deux, avec un facteur confiance, retrouver les investisseurs. On avait eu l'occasion d'en parler. En début d'année, beaucoup de gens étaient entre guillemets très prudents, potentiellement hors du marché. Et donc, naturellement, on imagine que le marché devrait respirer. Puisque, effectivement, les histoires de records, etc., même si le niveau du marché ne dit rien de la valo, on en a déjà parlé. Mais ce simple phénomène, empêche le marché vraiment de céder. Donc voilà, donc c'est une période un petit peu particulière.
Est-ce qu'on peut se dire que le marché n'a plus besoin de catalyseurs pour continuer de progresser ? Parce que là, on est dans une zone vraiment marécageuse. Il n'y a rien. Je veux dire, sur le front macroéconomique, il n'y a vraiment pas grand-chose en ce moment. Et sur le front micro, non plus. On est hors période de publication. Et pourtant, on touche de nouveaux records.
Par contre, c'est une journée intéressante, enfin, de ce point de vue-là. Donc, de ce sujet, le sujet intéressant, c'est la diffusion. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose qui monte. Et ça, nous, c'est quelque chose chez Dorval qu'on attendait depuis un moment. C'est-à-dire que là, ça n'est pas tout tech. On va aller chercher consommation discrétionnaire, H&M, on va aller chercher des secteurs défensifs, on va aller chercher une Veolia. Donc on élargit le spectre. Et même les petites et moyennes capitalisations qui sont à la traîne, hein, commencent à se comporter plus ou moins en phase avec le marché. C'est-à-dire que elles commencent à progresser plus ou moins en ligne avec le marché. Donc, elles ont arrêté de sous-performer. Et donc, ça traduit effectivement peut-être un début de diffusion. Donc, qui serait un environnement de marché qui correspondrait exactement à, finalement, à un environnement économique qui a surpris favorablement, qui se rapproche d'un scénario d'équilibre avec de la croissance, une croissance même qui repartirait un peu, surtout en Europe, et puis un scénario d'inflation qui reflue. Donc vraiment ce scénario un petit peu parfait, d'équilibre parfait et qui donne la place à autre chose que simplement les thèmes technologiques.
Oui, et vous le disiez, c'est vrai qu'on a une diffusion de la hausse. La hausse, là, depuis quelques séances, quelques semaines, n'est plus portée par les Magnifique Seven, mais par le reste de la cote. Vous citiez H&M, ici aussi en Europe, et puis aux États-Unis aujourd'hui, un autre titre au plus haut historique. C'est pas une GAFAM, c'est Merck dans le secteur de la santé. Merck gagne 4%. Alors, il y a en plus des infos qui portent la valeur. La FDA approuve son traitement contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Chaque injection coûtera 14 000 dollars au patient. Sacrée marge à venir pour Merck qui gagne donc 4% sur un nouveau plus haut historique. Est-ce que la hausse se diffuse de plus en plus ? Est-ce que vous sentez le marché, même s'il touche des records jour après jour, de plus en plus équilibré et finalement de plus en plus sain ? Étienne ?
Je ne sais pas si c'est très sain, mais en effet, tout monte. Donc, que ce soit les valeurs de croissance, les valeurs technologiques, la value, la diffusion vers les small et les mid, par exemple, le Nikkei au Japon, le S&P 500, le CAC 40, les commodities, donc c'est-à-dire les matières premières, l'or, le Bitcoin, tout monte dans ce qu'on pourrait qualifier de grand concours de beauté. Le beauty contest dont parlait Keynes dans sa théorie économique, c'est-à-dire que on est vraisemblablement dans un univers où la notion de valeur ne compte pas et tout ce qui compte c'est la spéculation, à savoir est-ce que l'actif que je détiens sera encore plus beau demain ou pas, et ça c'est nourri par un sentiment qui n'est pas forcément un sentiment très sain, mais qui est le sentiment de l'appât du gain. Appât du gain qui peut s'expliquer et s'appuyer sur des facteurs macro ou micro, peut-être un peu tangibles, mais qui sont notamment, quand on est dans un univers d'analyse keynésien, la manière dont la demande reste boostée par les déficits. Alors, on a les déficits en France, par exemple, qui font la une des journaux. Et puis, on a la grande dérive des déficits aux États-Unis qui continue, qui n'est absolument pas en train de se calmer. Et donc, si on compare à la date d'aujourd'hui les dépenses fédérales aux États-Unis, elles sont en hausse de 15% sur un an, alors que les revenus, eux, donc les revenus au travers des impôts, les revenus au travers de la croissance générée par le PIB US, eux ne sont en hausse que de 7%. C'est-à-dire que la dépense publique américaine croît deux fois plus vite que ne croissent les revenus, ce qui traduit du coup un univers qui est plutôt favorable. Hein, si vous avez un accompagnement de l'investissement et de la dépense
parallèlement, par les autorités. Mais parallèlement, le bilan de la Fed, lui, recule. Le bilan de la Fed, lui, se réduit. C'est-à-dire que, ok, est-ce que vous êtes en train de dire que le budgétaire a pris le relais des banques centrales, du monétaire, pour soutenir le marché en quelque sorte ?
Et exactement. C'est très précisément ça. D'autant plus que vous êtes également, pour des raisons qui sont contestables, mais dans un univers de baisse de taux anticipée. Donc finalement, ce qui est en train, moi je crois, de se produire, c'est, si on en revient à la macro, c'est le renoncement de la Fed explicitement à la target d'inflation de 2%. Quand vous avez la Fed qui vous annonce, l'inflation, donc le corps PCE, à la fin de l'année, sera autour de 2,7, et que parallèlement à ça, je vais baisser mes taux trois fois, alors ça veut dire qu'explicitement, vous renoncez à votre objectif d'inflation, et au contraire, vous êtes dans un univers qui incite l'inflation à se maintenir au-delà des deux. Pourquoi pas ? Donc, on voit bien, hein, si on relance d'un point de vue monétaire et d'un point de vue fiscal, alors que vous avez de l'inflation à 2,7, c'est que votre objectif d'inflation, il est au-dessus. Et vous êtes très content d'avoir de l'inflation. Et pourquoi vous êtes très content d'avoir de l'inflation et pourquoi vous cherchez à l'encourager ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut déflater la dette. Et on en revient du coup à ce sujet qui est que sont les déficits. Hein, les déficits augmentent, on pourrait même dire qu'ils explosent, ou en tout cas qu'ils suivent une trajectoire qui va être non contrôlée. Hein, aux États-Unis, on parle à horizon 2035 de non pas 120% de dette sur PIB, mais vraisemblablement beaucoup plus. Et ça, du coup, eh bien, il me semble que les investisseurs ont bien compris qu'on changeait de paradigme et qu'on allait vraisemblablement s'orienter vers un contrôle des taux d'intérêt, hein, un yield curve control aux États-Unis. On va faire en sorte de motiver les investisseurs à acheter des taux d'intérêt, à laisser les taux d'intérêt à peu près bas. Et pendant ce temps-là, on continue à encourager le cycle. Et on arrive dans un univers où finalement, il n'y a plus de cycle. Il n'y a plus qu'un seul cycle, c'est un cycle haussier.
Hein, ouais, c'est assez vertueux. Mais c'est assez vertueux ce que vous décrivez quand même. Parce que, ça veut dire que les banquiers centraux, en tout cas la Fed, accepte d'abandonner son objectif d'inflation de 2%. Elle accepte, elle tolère une inflation désormais plus élevée qui permet le désendettement, qui aussi soutient la croissance, parce que l'inflation, c'est pas mauvais pour la croissance, et elle soutient tout cela en faisant baisser ses taux. Donc pour le marché, c'est gagnant à tous les coups, et il n'y a rien de malsain là-dedans. Si, il y a quelque chose de malsain quand même, Sophie ?
Alors, je ne partage pas entièrement ce point de vue-là. Absolument, c'était l'idée. Dans le sens où 2,7 d'inflation en fin d'année, ça n'a rien de révoltant. Et ce qui compte finalement en termes de niveau taux, c'est le taux d'équilibre qui équilibre la croissance et l'inflation. Enfin, c'est l'objectif, et en tout cas, et en réel. Donc, les taux réels aux États-Unis aujourd'hui sont aux alentours entre 10 balades, entre 1,8 et 2,5% sur les derniers mois. Ce qui correspondrait plus ou moins au taux que personne n'a jamais calculé, mais qui un taux théorique d'équilibre qu'on appelle le R-star. Et donc aujourd'hui, ce que la Fed dit, c'est on a substantiellement monté les taux au-dessus du taux d'équilibre. L'inflation reflue, bon, peut-être un petit peu moins vite qu'on ce qu'on aurait espéré, mais la contrepartie de ça, c'est que la croissance se tient. Donc on est dans une zone d'équilibre avec laquelle on est relativement confortable. Et on sait qu'il y a un effet de décalage entre le moment où on resserre les taux et le moment où l'inflation baisse effectivement. Donc elle veut pas non plus en faire trop. Elle veut pas non plus casser. C'était vraiment un chemin de crête. Oui, oui. Équilibrer la croissance et l'inflation, ça a été très très dur.
C'est le scénario boucle d'or.
Mais,
on est dedans.
Voilà. Donc on est dedans et c'était presque inespéré. Hein. Les discussions qu'on avait il y a un an, c'était pas ça. Hein. Et donc c'était presque inespéré. Donc voilà, ce constat-là est fait. Et donc effectivement, on se dit 2-3 baisses de taux. Le risque de ça, bien entendu, c'est un risque surtout américain, c'est la surchauffe. C'est-à-dire que je pense que en termes d'allocation d'actifs, c'est le scénario alternatif que les gens reprennent maintenant, que les investisseurs reprennent maintenant, c'est de se dire finalement l'économie américaine va réaccélérer trop fort, puis l'inflation va réaccélérer, puis il n'y aura pas de baisse de taux du tout. Et ça, c'est un scénario qui reste possible. Ça serait d'ailleurs un scénario potentiellement de consolidation des marchés. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Comme un scénario adverse.
Oui, mais c'est intéressant là, ce que vous nous dites l'un et l'autre, et c'est peut-être un changement de paradigme aux États-Unis que la Fed et les autorités sont en train d'essayer de bâtir. C'est peut-être pas aussi successful en Europe. On en reparlera dans un instant. On est à 18 minutes de la clôture, 17h17. On accélère. Dernière ligne droite, vous l'entendez. Et notre CAC 40 qui s'oriente vers une hausse tout à l'heure. Notre CAC 40 est en progression actuellement de 0,1%, 8197 points. Enfin, ceci dit, à mesure qu'on approche de la clôture, la hausse est un peu plus ténue. On était tout à l'heure en hausse un peu plus confortable. On a même touché un nouveau plus haut historique. C'était en milieu d'après-midi sur le CAC à 8230 points. Record sur le CAC, sur le DAX, à la Bourse de Milan aujourd'hui, sur l'Eurostock 50 et l'Eurostock 600. Les valeurs qui se distinguent, Veolia Environnement gagne 1,8%. Orange, Carrefour aussi progressent sur les défensives aujourd'hui qui portent le marché, ce qui confirme les propos de nos deux experts du club, à savoir qu'on a une diffusion de la hausse. On n'est plus sur une hausse des seules valeurs de croissance, on a aussi les autres valeurs cycliques ou défensives qui portent le marché. Mais enfin, à peine. On rappelle que la variation du CAC est très limitée. En repli, Schneider Electric qui recule de 2,3%, puis Thales qui recule aussi aujourd'hui d'1,2%. Sophie Chevalier et Étienne de Marsac nous accompagnent. Ce que vous nous disiez l'un et l'autre est-il aussi valable sur l'Europe? Est-ce que le scénario boucle d'or en Europe est une réalité ou la BCE court après comme un adulte, enfin n'importe qui pourrait essayer de courir après le vent, quoi. Enfin voilà. Est-ce que le scénario boucle d'or est en place aussi ici ou est en train de se mettre en place, Sophie?
Alors il pourrait être en train de se mettre en place. C'est beaucoup plus ténu et le risque, le scénario alternatif n'est pas le même. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, entre la fin du cycle de déstockage et l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages par la hausse des salaires, et le reflux de l'inflation, donc le salaire réel s'améliore, on peut effectivement avoir une configuration un petit peu plus favorable qui se met en place, avec dans le viseur la même chose, c'est-à-dire la perspective d'une baisse des taux de la BCE. Mais c'est pas encore, c'est moins évident. D'ailleurs, vous parliez des chiffres allemands qui continuent à être très décevants. C'est moins évident qu'aux États-Unis. Mais ça reste quelque chose. Enfin, ça reste quelque chose de possible. Mais le scénario alternatif est différent. Dans le sens que ce qu'on craint toujours en Europe, c'est quand même un atterrissage dur. On n'est pas complètement sorti de ce risque-là. Mmh. L'inflation reflue est un facteur extrêmement positif en Europe, c'est l'écroulement du prix du gaz. On observe, et c'est notamment positif pour l'Allemagne, on observe un écroulement du prix du gaz. L'Europe, elle a une configuration différente parce qu'elle a pris de plein fouet une crise énergétique majeure liée à la guerre en Ukraine. Il a fallu s'approvisionner en gaz à un prix complètement prohibitif et que, entre-temps, depuis lors, s'est mis en place tout un tas de structures d'approvisionnement alternatif pour amener en Europe du gaz, du LNG, et que aujourd'hui, en fait, on a même une suroffre. Et à horizon 2025, on voit effectivement une suroffre de gaz qui s'est mise en place avec un doublement de la production au Qatar, avec un accroissement de l'offre américaine, etc. Donc, le reflux de l'inflation est d'autant plus fort. Et donc, l'action de la BCE est même encore plus légitime qu'aux États-Unis. Enfin, l'Europe en a besoin.
Une baisse de taux serait beaucoup plus légitime.
Une baisse de taux, Villeroy de Gallo met le taux d'équilibre, donc le fameux R-Star aux alentour de 2%, c'est-à-dire que il légitime effectivement, enfin la vision est d'envisager.
Et les chiffres allemands aussi, les grands instituts Étienne en Allemagne économiques abaissent drastiquement leurs prévisions de croissance. Alors c'est pas une surprise, mais quand même on passe directement d'une prévision de croissance pour l'Allemagne cette année d'1,3% à 0,1. Enfin on passe direct d'1,3 à 0,1%. C'est quand même très spectaculaire là. Pourtant on a les données en tête, on les connaît les données sur l'Allemagne. Qu'est-ce qui justifie cet abaissement?
Ce qui justifie, c'est vraisemblablement des pronostics au départ beaucoup trop optimistes, volontairement optimistes. En particulier, on le voit bien également pour la France, de sorte de continuer à justifier des dépenses et à financer que ce soit la transition énergétique ou que ce soit l'effort de défense.
Oui, on se disait ça portera la croissance, quoi.
Donc exactement. Alors c'est deux choses. Ça tire la croissance, mais ça tire également les dépenses. Et pour faire en sorte que le ratio finalement d'augmentation de la dette par rapport à l'augmentation de la croissance ne soit pas trop désastreux, qu'est-ce qu'on fait? On triche un peu en début d'année sur les pronostics de croissance et puis on les revoit ensuite au fur et à mesure de l'année et c'est très exactement ce qui est en train de se produire en Europe avec une différence de scénario que je partage qui est également l'Europe part d'un niveau de croissance qui est quand même relativement bas et donc alors que les États-Unis embarquent et arrive à continuer sur un régime assez élevé. Et donc, vraisemblablement, que la croissance des indices actions, puisque c'est ce qui nous intéresse au niveau européen, est plus fragile, me semble-t-il, que celle des comparables aux États-Unis, parce que le moteur de croissance cale et parce que la Banque centrale européenne est très orthodoxe dans sa manière de gérer les taux d'intérêt et éventuellement de recadrer les budgets, que ce soit celui de la France ou celui des pays du Sud. Donc on n'est pas à l'abri, en effet, en Europe, non pas d'une crise de la dette, hein, le terme serait un peu fort, mais d'un recadrage de Bruxelles qui semerait un peu le doute ou la fin de la récréation dans ce contexte un petit peu d'allégresse que l'on constate un peu partout sur les indices.
Donc en termes d'allocation, pour ceux qui se demandent comment investir pour la suite de l'année, en plus on arrive à la fin là, du premier trimestre, qui va se terminer demain, le premier trimestre boursier. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Généralement, statistiquement, le mois d'avril est un bon mois en bourse. Sur les 20 dernières années, le mois d'avril est le troisième meilleur mois de l'année, généralement en bourse, en tout cas à Wall Street. Qu'est-ce qu'on fait là pour la suite, Étienne ?
On diversifie les portefeuilles, hein, donc c'est un petit peu la tarte à la crème, mais on voit bien que dans cette hausse généralisée des actifs, il y a cette recherche de l'actif déco ou de l'actif qui va me diversifier si toutefois ça cale. Et si ça cale sur les indices traditionnels. Donc, quels actifs ? Bon, on voit bien, finalement, on parlait de l'or. L'or traduit quelque part la recherche de la diversification. On n'est pas très loin d'un all-time high sur les prix.
On est à 2211 $ cet après-midi sur l'once d'or.
On a des targets également sur les cryptocurrencies, donc le Bitcoin à 100 000 $.
On a des targets. Vos targets ?
Non, c'est pas. On a des targets. C'est-à-dire
Il y a des targets
institutionnels et la target dont tout le monde parle. Avant le phénomène de halving qui va intervenir, je crois, mi-avril, c'est de l'ordre de 100 000. Bon, c'est un peu le chiffre magique, mais qui traduit bien ce désir aussi de recherche d'un actif qui va vous hedger ou vous diversifier. Mm-hmm. Et vous diversifier contre quoi ? Ben, contre effectivement un événement macro qu'on n'aurait pas prévu et qui pourrait être une réaccélération, pourquoi pas, de l'inflation sur fond de baisse de taux, sur fond de consommation dopée. Et c'est bien, je pense que c'est ce que disent...
C'est votre scénario. Vous attendez une réaccélération de l'inflation qui n'empêchera pas des baisses de taux.
Oui, exactement. Ouais. D'où la recherche et d'où ces achats en or. Ces achats en or, c'est vraiment typique d'un hedge, d'une recherche de protection contre, pourquoi pas, un redémarrage de l'inflation. Idem, et on le voit bien également sur les matières premières. Donc, on a le cuivre qui est en train de casser ses plus hauts de l'année. On a donc dans des matières premières qui sont un petit peu plus différentes, mais le cacao, les prix du cacao nous disent quelque chose, exactement. Et donc encore une fois, j'ai l'impression que c'est ce sujet de l'inflation qui est en train d'animer un peu ce qu'on constate dans le prix des actifs.
Donc priorité pour vous, la diversification face au nouveau paradigme que les Américains tentent d'introduire dans le marché, à savoir une inflation peut-être qu'on tolérera aux États-Unis supérieure aux 2%, et ça n'empêcherait pas la Fed de continuer de baisser ses taux, en tout cas d'enclencher une baisse de taux. Inflation qui réaccélérerait, mais des baisses de taux quand même. Intéressant ce nouveau paradigme. Et donc face à ce paradigme, vous cherchez la diversification. De votre côté, Sophie, quelles sont vos priorités, vos choix en termes d'allocation pour la suite ?
Nous, ce qu'on espérait et ce qu'on attend, c'est effectivement la diffusion, c'est-à-dire sortir du tout technologie pour avoir des marchés qui vont être moins concentrés sur quelques valeurs. C'est ce qu'on commence à observer. Il y a un autre rallye boursier qui est en train de se manifester dans le marché et qui est plus discret, entre guillemets, mais c'est celui des financières. Et en fait, quand on y réfléchit, ce qui a fait vraiment du bien aux financières, c'est que les taux ne baissent pas. C'est-à-dire que les baisses de taux soient retardées. On en avait parlé la dernière fois, c'était au moment où on a parlé, je me souviens, c'était 0,7 fois le prix des actifs pour 7% de rendement. Voilà, avec des perspectives opérationnelles facilitées par les taux positifs, et puis d'un point de vue réglementaire, le gros des efforts, particulièrement en Europe, ont été faits post-crise européenne. Donc on est sur un secteur qui retrouve un certain attrait pour les investisseurs. Nous, chez Dorval, d'une façon générale, on reste plutôt bien investi et on a plutôt exploré pour protéger les gestions patrimoniales des stratégies optionnelles. C'est-à-dire que les grands indices ont beaucoup progressé, souvent plus que les indices équipondérés, par exemple. Et donc, comme la volatilité est très très basse, on a plutôt cherché de la protection au travers de stratégies optionnelles pour se prémunir effectivement d'un éventuel choc externe.
Deux façons de se couvrir. Aude nous appelle, on est à 8 minutes de la clôture des marchés. Aude Kersulek depuis la tour Euronext, comment se présente cette clôture ce soir dans un instant, Aude?
Mais on a bien réduit nos gains quand même. Depuis tout à l'heure, on est passé sous les 8200 points. Bon, tout juste 8199. Ce sera nos petits suspens d'ici les quelques minutes. Mais on fait quand même affaire à quelques prises de bénéfices. Notamment, c'est le cas de Schneider Electric. Plus forte baisse du CAC, on perd 3%. Et aussi plus fort volume de la séance devant LVMH Schneider. Alors, on n'a pas de news d'entreprise vraiment sur ce titre. Mais on a atteint hier et ce matin un plus haut historique, 216 euros, sûrement un objectif que s'étaient fixé beaucoup d'investisseurs et donc des algorithmes qui se sont mis à vendre pour une valeur qui progresse tout de même de plus de 15% depuis le début de l'année. Mais voilà, c'est peut-être aussi un pendant d'atteindre des plus hauts historiques. C'est qu'à un moment, il faut empocher l'argent, donc il faut vendre et ça crée forcément des petites baisses.
Effectivement, on en reparle dans un instant. Aude, vous nous ferez vivre cette clôture en direct sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur nos réseaux sociaux aussi, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn, vous pouvez, chacun d'entre vous, vous y abonner. Et si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, sachez qu'on y répond. Chaque jour, vos questions trouvent ici leurs réponses. C'est vers 15h50 dans Culture Bourse. Julie Cohen-Horton et son expert vous répondent. N'hésitez pas aussi donc à nous envoyer vos questions. 17h29, on entre dans la Data Room.
Doucement.
Le monde, dans son plus simple appareil, ses courbes et ses contours, tels que nos experts les voient et nous les font voir. Étienne et Sophie, êtes-vous prêts?
Oui.
Nous sommes prêts.
Une minute chacun pour présenter les courbes du monde et ses contours à travers une data forte. Étienne, on démarre avec vous. Votre chiffre, c'est 10 000 dollars.
10 000 dollars la tonne, c'est le prix qui est en train d'atteindre le cacao sur le marché des futurs. Pourquoi ce prix est symptomatique? Parce que c'est la première fois depuis 23 ans que le prix du cacao est supérieur au cuivre. Que le prix d'une denrée alimentaire, comme le cacao, est supérieur à celle d'une matière première industrielle. Ça traduit pour moi, évidemment, des éléments d'explication qui sont rationnels et d'autres qui sont non rationnels et liés à la recherche de couverture contre l'inflation. Les éléments rationnels, qu'est-ce que c'est ? Déficit de production, coûts à la production qui sont élevés, des problématiques de refinancement de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, puisqu'il faut financer la récolte future, et puis des bactéries qui se sont manifestées dernièrement. Donc vous avez des phénomènes climatiques, des phénomènes bactériologiques et un problème de financement qui naturellement conduit à la hausse du cacao. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez également un univers dans lequel toutes les matières premières sont de nouveau en train de prendre du momentum. Et comme on parle du cacao traité au travers de futurs, on comprend bien qu'il y a également de la spéculation là-dedans et de la recherche d'un actif qui pourrait continuer à monter pour des bonnes ou des mauvaises raisons.
Oui, et la demande, elle, ne baisse pas pour le cacao.
Il n'y a pas de raison,
ouais, effectivement. Et vous en entendez parler partout, du cacao, mais jamais en des termes aussi précis. C'est ici, sur BFM Business et dans BFM Bourse. Oui, tout le monde en parle, parce qu'en plus, il y a Pâques qui approche. C'est un sujet, les cours du cacao. Alors, nos experts nous disent souvent l'impact des cours en temps réel du cacao sur les prix du chocolat qu'on achète dans les boutiques, il y a un espace, il y a un écart, il y a un délai de 6 mois entre les deux. Donc, c'est pas parce que le cours du cacao est sur un record que vous achèterez votre chocolat sur des prix records. Même si on peut imaginer que les prix progressent quand même. Non, ça vous fait sourire. Vous avez déjà acheté vos autres packs et vous avez repéré une inflation importante.
Je comptais priver les enfants.
Mais oui, c'est beaucoup plus simple. Étienne s'est livré, une data forte. Le niveau est élevé ce soir dans la data room. Sophie, à vous de vous livrer et d'essayer de faire aussi bien. Votre data, votre chiffre, 6000.
6000. Qu'est-ce qui pourrait conduire le S&P 500 à atteindre 6000 dans les prochains mois? Deux possibilités. Possibilité numéro 1, l'exceptionnalisme des grandes valeurs américaines. Qu'est-ce qui pourrait conduire à ça? Une poursuite, des révisions en hausse des perspectives. On tourne beaucoup autour de l'histoire de l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a une accélération de la demande pour les solutions d'infrastructures, data center, etc. Donc effectivement, si on révisait encore les anticipations, on pourrait avoir une poursuite de la progression des valeurs en bourse, puisque ce n'est pas une bulle de valorisation, c'est une bulle de profit. Deuxième possibilité, la possibilité de la diffusion. Dans un contexte économique amélioré, avec énormément de secteurs en retard, on pourrait imaginer un retour d'intérêt des investisseurs et une diffusion de la performance qui continuerait à pousser les indices, pas par les 7 valeurs, mais par les 493 qui restent.
Et cette diffusion, on en parlait tout à l'heure, est en train, a priori, de commencer à se manifester. On verra. Si ça
on verra. Les principaux risques, parce qu'il y a toujours des risques, le marché a énormément monté à court terme, donc on n'est effectivement jamais à l'abri d'une respiration. Les risques, on en a parlé pendant l'émission. Réaccélération de l'inflation alors qu'on anticipe des baisses de taux. Ralentissement plus fort que prévu de l'activité. Mais aujourd'hui, c'est un niveau qui commence à être discuté et envisagé.
Pourquoi pas les 6000 points, donc une hausse de 15% à venir sur le S&P.
En partant des niveaux actuels.
Voilà, je vous propose deux scénarios. Celui-ci, les 6000 points sur le S&P, ou au contraire, une baisse de 1000 points, moins 20%. Ça, c'est le scénario de JP Morgan d'ici la fin de l'année. Lequel est le plus probable, d'après vous, Sophie? Moins 20% ou plus 15% d'ici la fin de l'année?
Moi, je serais tentée par les plus 15.
Plutôt plus 15.
Plutôt plus 15. Je pense que, contre toute attente, on est dans un bull market. Un bull market, ça ne va pas toujours en ligne droite, mais on est dans un...
Et un grand cycle haussier?
Un grand cycle d'investissement, en fait. Et c'est ça, la surprise.
Étienne, plutôt plus 15 d'ici la fin de l'année ou plutôt moins 20, scénario de JP Morgan pour le S&P?
Non, moi, je trouve que le moins 20 est quand même un peu agressif. Le plus 15, pourquoi pas? J'ai envie de pas trop me mouiller. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un aléa important avec les élections américaines à la fin de l'année qui vont tout fausser. Et donc, c'est un peu difficile de se projeter, ne serait-ce qu'à horizon 6 mois.
Merci à tous les deux. La Data Room chaque soir juste avant la clôture des marchés. Sophie Chevellier pour Dorval AM, Étienne de Marsac pour Monakea Capital. Merci de vous être prêté au jeu. Bon retour. Bonne soirée à tous les deux. Toujours un plaisir de vous accueillir. Le CAC 40 termine en hausse sans doute. Peut-être pas. On va voir dans un instant. C'est vraiment ténu. C'est Aude qui nous fera vivre cette clôture en direct. On se retrouve juste après la pause. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Aude Kersulec avec nous, puis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Rebonsoir Aude. Et c'est déjà l'avant-dernière séance de la semaine. Semaine raccourcie évidemment avant le week-end pascal. Comment termine-t-on ce soir en Europe?
Ouais, c'est des petits scores hein, quand même. Depuis le début de semaine, plus 0,25%. On est quand même en hausse hein, aujourd'hui. Après plus 0,4% hier et 0 lundi. On est au-dessus des 8200 points. On se demandait hein, sur la fin de séance si on n'allait pas descendre en dessous. 8204 points. Séance plutôt calme. Il ne faut pas se fier de l'eau qui dort. On a quand même franchi un plus haut historique aujourd'hui. On est monté d'un point au-dessus du précédent record. 8230, voilà le nouveau plus haut historique du CAC 40. Et puis le CAC n'était pas isolé hein, en Europe ce record, puisqu'il y a aussi le DAX à Francfort qui est allé au-dessus des 18500 points, même si là aussi il clôture en dessous avec une hausse de 0,5%. L'Eurostox 50 aussi qui maintenant vogue bien au-dessus des 5000 points, 5081 points. Et puis c'était le cas aussi de l'indice de la bourse de Milan. Alors c'est vrai que c'était plutôt calme à l'intérieur des indices. On voit que ce qui a progressé aujourd'hui, c'était les valeurs défensives, Veolia, Orange, Carrefour aussi. Alors on avait baissé aussi Carrefour hier avec le premier actionnaire qui avait baissé sa participation. On remonte aujourd'hui de 1,5%. Et puis la valeur qui a le plus baissé sur le CAC 40, c'est Schneider Electric. Je vous en parlais il y a quelques minutes. C'est surtout parce qu'on a atteint un plus haut historique sur cette valeur, 216 €, et que là qu'on est redescendu de 2,8% à 209 €. Et sur le SBF 120, on voit une belle poussé aujourd'hui de EuroAPI, plus 7%. Atos reprend un peu de terrain, plus 3% à 1,78€. Et puis les plus fortes baisses, c'est CGG ou encore Worldline. Voilà donc pour le CAC 40. Un volume d'affaires qui reste encore assez faible, hein, en dessous des 3 milliards d'euros. C'est vrai que c'est assez faible cette semaine, assez calme, peu d'échanges, mais on monte quand même encore aujourd'hui 0,24% à 8204 points, Guillaume.
Et on aura donc battu un record en séance, un nouveau plus historique sur le CAC, sur le marché allemand à Francfort, à la Bourse de Milan, sur l'Eurostock 50 et l'Eurostock 600. Vous les avez repérés, Aude, ces records, même si les variations restent extrêmement faibles. Romain Daubry avec nous, puis Bourse Direct. Bonsoir Romain, quels signaux séance envoie-t-elle pour la suite ?
Bien des signaux d'absence d'opérateurs, d'absence de main forte. On est toujours dans une consolidation latérale sur le CAC 40, 8146 en bas, 8242 en haut. On a buté sur la borne haute tout à l'heure, avec des volumes qui sont atones, notamment sur les futurs, pas d'intérêt et puis pas de soutien acheteur depuis une dizaine de jours maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérateur, pas de main forte, pas de stratégie forte qui se met en place sur ces niveaux de marché, avec une volatilité qui passe sous les 11 sur le CAC 40. C'est pas un critère d'alerte en soi, c'est juste qu'un petit rappel à l'ordre, un petit sursaut de volatilité possible dans les heures qui viennent. Et puis on a effectivement un week-end important à entamer, puisqu'il sera large, un peu élargi, et qu'en plus vendredi seront publiés les chiffres de l'inflation aux États-Unis, marqueur important et bien suivi par la Fed. Donc un peu de prudence avant ça, en considérant qu'il y aura aussi les arbitrages techniques liés à la fin du trimestre demain. Un peu de volatilité à prévoir. Pas d'alerte majeure, mais on est un peu méfiant à la bord de ce week-end
prolongé. On a une convergence d'enjeux là en fin de semaine, alors que Wall Street sera fermé vendredi. Donc un petit peu de méfiance avant cette convergence d'enjeux. On va en parler avec nos experts jusqu'à 18h et vous nous accompagnez aussi, bien sûr, Romain. On est à vos côtés. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en direct. On va refaire la séance et vous apporter des idées d'investissement. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Nicolas Lasserie, gérant action pour Mandarine Gestion. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Franck Morel aussi nous accompagne, le président de Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver.
Bon. Bonsoir à tous.
Petite variation, mais enfin, on a quand même signé un nouveau record aujourd'hui sur l'indice CAC 40. On le rappelle, c'est pas tous les jours. Enfin, si, c'est tous les jours. Ben voilà, le record du jour, 8230 points sur l'indice CAC 40. Vous êtes à l'aise avec cette hausse des marchés ou vous estimez, Nicolas, que le marché monte un petit peu à vide là en ce moment ?
Ils ne montent pas vraiment à vide. Hein. En fait, il y a une diffusion de la hausse qui a été très concentrée en début d'année et qui est en train de se diffuser au secteur cyclique et également aux petites et moyennes valeurs. Donc, c'est plutôt sain. Donc, pour l'instant, on est plutôt à l'aise. Après, la grosse question, c'est de savoir quel va être le catalyseur de la suite de ce rebond, peut-être les baisses des taux à venir. Donc on n'a pas vraiment de signaux d'alerte pour l'instant, on se laisse porter.
Oui, et vous constatez vous aussi, vous les suivez les small et mid chez Mandarine, vous constatez vous aussi un petit regain d'intérêt là sur les small et mid. Vous n'êtes pas le premier à nous le dire là depuis le début de la semaine. Oui, ça revient, la collecte revient un petit peu sur les petites et moyennes valeurs.
On sent un frémissement grâce aux attentes de baisse de taux, des résultats des entreprises qui n'ont pas été si mauvais que ça, et finalement une situation économique en Europe qui se stabilise. Et qui pourrait également reprendre à partir du deuxième trimestre. Donc des éléments plutôt favorables pour les small et mid.
Franck, même question. Est-ce qu'à vos yeux, le marché monte à vide ? Est-ce que la hausse, est-ce que le record du jour sur le CAC 40 sonne creux ? Ou au contraire, vous estimez qu'il y a des raisons de penser qu'on est sur un cycle aussi amené à durer ?
Bon, pour moi, le marché est correctement pricé sur ces niveaux. On n'a pas un potentiel fou en l'état. On n'a pas non plus de risque majeur. La suite aux prochains épisodes liés à l'inflation notamment.
Il y a une valeur qui cartonne aujourd'hui, H&M a publié ses résultats, le spécialiste suédois de l'habillement, plus combien là en clôture pour H&M, on le voyait tout à l'heure à plus 16, on termine à plus 15,5 H&M, plus 15,5, les marges largement au-delà des anticipations, le fait que ce titre gagne 15,5%, ça dit quoi ? Ça dit que H&M c'est de la balle, enfin H&M c'est formidable, ou ça dit que le marché a beaucoup de réservoirs de hausse encore à venir ? Comment est-ce que vous interprétez une telle progression de 15,5, Nicolas ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a il y avait des craintes globalement sur la consommation qui sont fortes depuis le début de l'année, avec des craintes de baisse du pouvoir d'achat. Et là, on voit dans cette publication que même si elle n'est pas flamboyante, finalement il n'y a pas de ralentissement fort de la consommation. Ensuite, il y a des éléments spécifiques. L'impact, la marge est clairement supérieure aux attentes, et ça crédibilise l'atteinte de 10% de marge par H&M en fin d'année. Donc c'est plutôt rassurant. Après, sur H&M, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que c'est un modèle qui est très dépendant des importations en provenance d'Asie. Mmh. Donc c'est un désavantage hein, par rapport aux concurrents. Ça ne permet pas à H&M d'être assez réactif face au, à, par définition, à un secteur où, où la mode est très importante. Et également, c'est un désavantage d'un point de vue ESG, hein, avec des, un bilan, bilan carbone qui n'est pas bon.
Ah bon ? Ah oui, vous cassez l'ambiance, là. Non, H&M, donc, qui, en tout cas, gagne un peu plus de 15% ce soir en, en clôture. Même question, Franck. Est-ce que ça dit plus du marché que de la qualité d'H&M, là, le fait que ce titre parvienne à gagner ce soir 15%? Est-ce que ça dit plus de l'état du marché, de son potentiel, son réservoir de hausse encore à venir, que de la qualité intrinsèque d'H&M?
Donc H&M, le challenger de Inditex, qui avait publié il y a quelques semaines largement aussi au-dessus des attentes, qui est assez sur ses plus hauts historiques. Inditex, c'est à peu près 7 fois plus gros que H&M en termes de capitalisation. Donc Inditex est mieux valorisé que H&M, qui a des niveaux de marge bien inférieurs et qui justement bataille pour avoir des niveaux de rentabilité qui sont actuellement autour de 6,5% pour arriver à 10%. Et donc la publication de ce jour a été extrêmement bien accueillie, quand bien même le chiffre d'affaires est sorti comme attendu par les analystes. La rentabilité était très largement au-dessus des attentes, puisque vous avez en gros un résultat net de 1,2 milliard de couronnes suédoises contre 700 millions attendus. Donc on est quasiment sur deux fois ce qu'attendaient les analystes. Donc c'est ce qui explique la très forte progression du titre aujourd'hui. Et ça donne effectivement du crédit à la stratégie de réduction des coûts qu'a entamé H&M, qui veut absolument arriver à des niveaux de rentabilité plus proches de ceux qu'Inditex, qui est clairement le meilleur élève de la fast fashion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les indications en bas de l'écran, elles sont que la fast fashion, le low cost, ça fonctionne. Donc en gros, il faut être soit dans le luxe, soit dans la fast fashion. Ça fait déjà un moment que ça dure. C'est une nouvelle fois confirmé. Après, si on devait choisir entre Inditex ou H&M, on choisirait Inditex parce qu'on a une visibilité beaucoup plus forte et des marges plus élevées pour un chiffre d'affaires beaucoup plus international.
Il y a un rendement aussi intéressant d'Inditex, le dividende. On va rentrer d'ailleurs dans la saison de versement des dividendes. Est-ce qu'il y a une valeur comme ça, Nicolas, dont vous vous dites, celle-ci, ce groupe coté en bourse, il va non seulement délivrer, offrir un bon rendement à travers le dividende, mais en plus il offre un beau potentiel de hausse encore en bourse. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une idée de valeur dont vous vous dites, c'est le meilleur des deux mondes, à la fois du rendement grâce au dividende et encore un potentiel de hausse en bourse?
Dans cette idée, on aime bien Bureau Veritas, qui est une société qui a un rendement de 3%. Donc, ce n'est pas très élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un rendement qui progresse de 10% par an depuis 10 ans. Donc, une croissance du dividende. Et en plus, c'est une société qui rachète des actions à hauteur de 1,5% du capital par an. Donc, au global, le retour aux actionnaires est bon. Et l'aspect croissance nous semble très important parce que ça reflète en fait les bons fondamentaux de la société, qui est une société de croissance. Et qui a également du levier sur sa marge.
Donc pourquoi pas Bureau Veritas? Voilà, meilleure alliance des deux mondes, meilleur alliage, le meilleur des deux mondes, à savoir le rendement et le potentiel de hausse en bourse. Même question, Franck, une valeur comme ça qui offre le meilleur des deux mondes et qui va verser son dividende dans les prochaines semaines?
Alors il faut effectivement s'intéresser au meilleur des deux mondes, c'est-à-dire certainement pas aller chercher les sociétés qui versent les plus gros dividendes, parce que c'est généralement des sociétés qui ont des problèmes et qui tentent de maintenir leur cours en appâtant les investisseurs avec des dividendes avec très élevés. Et donc vous avez souvent des sociétés matures, des sociétés très endettées, des sociétés dans des situations particulières où vous avez un risque qui est généralement bien plus important que les 2% ou 3% que vous allez avoir en plus de rendement par rapport à des sociétés beaucoup plus saines. L'exemple de Bureau Veritas en était un. On a Inditex par exemple qui verse du 4% de dividendes. En gros, quand vous allez en ce moment sur le niveau de prix actuel, quand vous allez au-dessus de 4%, c'est qu'il y a une raison et que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc attention à la fausse bonne idée.
C'est dit. On vous rappelle, ce soir, la clôture du CAC 40, il termine en hausse, notre CAC, une petite hausse ténue, étroite, timide, plus 0,25%. Mais enfin, en séance, on a quand même touché un nouveau record, nouveau plus historique. C'était vers 15h40 tout à l'heure. On l'a vécu en direct, d'ailleurs, dans BFM Bourse. Le CAC était alors à 8230 points, nouveau plus haut historique. Notez aux États-Unis qu'il y a une valeur sur un plus haut aujourd'hui. C'est pas une GAFAM. On est dans la santé. C'est Merck. Merck qui bénéficie du feu vert de la FDA pour son traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, chaque injection coûtera aux patients 14 000 $. C'est pas donné. C'est John Plassard qui nous disait tout à l'heure dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site. Mais donc Merck aujourd'hui, du coup, en profite du feu vert de la FDA et gagne plus de 4%, nouveau plus historique pour ce titre Merck. Et on va rester avec vous, Franck, aux États-Unis, à travers l'intelligence artificielle. On n'en a pas encore parlé. Il est temps de se rattraper avec ce titre MicroStrategy. MicroStrategy lance un robot d'IA personnalisable. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franck?
Oh bah ça m'inspire que la société MicroStrategy est une société qui a une notoriété extrêmement forte, alors que finalement elle ne fait que 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils mettent tout leur cash, mais j'ai bien dit tout et depuis longtemps. Voilà, pour le coup ils ont bien fait, dans le Bitcoin. Donc c'est aujourd'hui le plus gros détenteur de Bitcoin, de tous les détenteurs possibles et imaginables d'investisseurs en Bitcoin. C'est MicroStrategy qui détient le plus la plus grosse position, puisqu'ils ont 200 000 environ Bitcoin, soit l'équivalent de 14 milliards de dollars sur la base des cours actuels. Donc la société, elle vaut 34 milliards de dollars en bourse, mais en fait, elle a ce niveau de valorisation essentiellement parce que elle détient énormément de Bitcoin et l'évolution de son cours fluctue directement en fonction évidemment des cours du Bitcoin compte tenu du poids. Son activité d'édition de logiciels, qui lui permet donc de faire ses 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, est donc valorisé aujourd'hui dans les 18 milliards de dollars, ce qui est juste stratosphérique. Et l'annonce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est finalement la société est spécialisée dans la fourniture d'outils de reporting, de dashboard pour les sociétés, et donc elle va simplement, elle a fait une com aujourd'hui qui laisse entendre que ses clients vont pouvoir faire des requêtes et avoir des réponses fournies par l'intelligence artificielle sur la base de leurs propres données qu'ils ont importées dans leurs outils de reporting. Donc, pas d'info majeure aujourd'hui au niveau de l'activité de MicroStrategy, dont le cours restera essentiellement lié à l'évolution du Bitcoin et qui me paraît aujourd'hui très fortement valorisé, indépendamment de l'évolution du Bitcoin.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'annonces en matière d'intelligence artificielle, sauf MicroStrategy, qui donc promet un robot personnalisable d'intelligence artificielle, mais vous nous dites c'est peut-être d'abord de la com. Voilà, et c'est d'abord une valeur Bitcoin, ce titre MicroStrategy, avant d'être une valeur d'intelligence artificielle. Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct, toujours. Merci Romain d'être toujours avec nous. Est-ce que, d'un point de vue technique, MicroStrategy, très lié, c'est vrai, au cours du Bitcoin, a beaucoup de potentiel encore à la hausse, d'après vous? D'un point de vue boursier, hein, bien sûr, ça dépend du Bitcoin, parce qu'ils détiennent énormément de Bitcoin dans leurs réserves, mais est-ce que boursièrement, techniquement parlant, vous estimez que ce titre doit encore progresser?
Alors, il peut encore progresser un peu. Il a formé une petite consolidation, enfin une petite grande en amplitude, mais petite en temps, entre le 15 et le 25 mars, dans une structure en triangle. Il en est sorti par le haut puissamment. Le parcours reste donc haussier. On est proche de la cible idéale de ce mouvement, ce qui est situé entre 2022 et 2044. Le titre cote environ 1916 à l'instant. Reste que depuis une ou deux séances, les volumes sont quand même en baisse de façon assez significative. Donc ça, c'est toujours à surveiller dans un mouvement haussier. Ça peut être un signal de manque de momentum. Si on arrive à déborder le niveau de 2044, la résistance suivante et une cible majeure pour le titre, c'est 2169. Donc les niveaux d'alerte sont loin, c'est 1782. Ce serait une première brèche dans la tendance. Le retournement de tendance, il est vraiment très loin aussi. C'est 1523, mais il faut dire que c'est un titre qui a pris près de 200% depuis la réactivation haussière formée début février.
Nicolas, si je vous parle d'intelligence artificielle, ça vous amène vers quelle valeur? Quel est votre chouchou là, comme ça, au-delà d'NVIDIA? Bon, toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a une valeur spécifique dont vous vous dites celle-ci, elle est aussi bien positionnée sur l'IA et on n'en parle peut-être pas assez?
Oui, y en a beaucoup hein, dans le compartiment des petites et moyennes valeurs. En Europe, il y a une société qu'on aime bien qui s'appelle Munters, qui est une société suédoise de moyenne capitalisation. Et eux, ils sont exposés au métier des data centers. En fait, ils font de la réfrigération de data centers. Ils permettent de les refroidir. Et donc, leur activité bénéficie clairement de l'IA et de l'explosion en cours du marché des data centers, hein, puisque c'est un marché qui est 7 fois plus gros actuellement qu'il l'était en 2020.
En 4 ans, x7. Ah
oui. Ouais. Donc un vrai boulevard de croissance, et ça se voit dans les chiffres, bien sûr, de Munters. Donc une société dans cette thématique-là qu'on aime bien.
Munters, donc un ricochet de l'intelligence artificielle à travers l'activité de data center nécessaire. Et donc ils refroidissent les data centers, c'est
exactement
ça leur travail. D'accord. Munters. Par contre, c'est pas éligible au PEA, du coup, c'est une société suédoise. Si, c'est éligible au PEA quand même.
Éligible au PEA, oui. parce
oui,
que c'est
ça vous semble l'être.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Bon, ben voilà, pourquoi pas une idée. Non, mais d'un point de vue fiscal, non, c'est intéressant. En plus, on va rentrer dans la période de déclaration fiscale. On a beaucoup de questions, d'ailleurs, sur la fiscalité, donc autant en parler. Bon, le CAC 40, ce soir, gagne 0,2%. Il y a un titre, une société qui choisit de changer de nom, parce que plastique, en ces temps de verdissement de l'économie et de ESG, plastique, ça fait pas une bonne promotion. C'est Plasticomium qui nous annonce qu'il va changer de nom désormais. Alors, il va falloir s'y faire. Quel sera le futur nom de Plasticomium? Ce sera OP Mobility. Voilà, c'est mieux que Plasticomium. Vous achetez ce nouveau nom, Nicolas ?
Pas forcément. Bon, ça reflète en fait que la société a besoin de se transformer et est en train de se transformer, mais c'est très long. Hein. C'est une société qui dépend beaucoup du moteur thermique, qui est une activité qui génère beaucoup de cash pour Plasticomium et qui maintenant se diversifie dans l'électrique et l'hydrogène. Elle en est encore au début, donc on va attendre un petit peu. D'autant plus que on est sur un secteur où le pricing power est maintenant plus dans la main des constructeurs, donc attendons.
Oui, il suffit pas de changer de nom pour faire évoluer son potentiel boursier. Je vous sens très très prudent sur le potentiel de.
Espérons que ce soit un début, mais
voilà.
On attendra.
Ce groupe donc OP Mobility, nouveau nom de Plasticomium. Merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir. Nicolas Latsry pour Mandarine Gestion, Franck Morel depuis les bureaux de Zone Bourse au bord du lac d'Annecy. Il neige chez vous, près de chez vous là, Franck, ce soir.
Ouais, exactement.
Eh oui, la saison du ski n'est pas encore complètement terminée. Eh oui, il neige juste avant le week-end de Pâques en plus, c'est bon, profitez-en. Merci beaucoup aussi à Romain Daubry qui surfe avec nous chaque soir, chaque jour dans BFM Bourse depuis les bureaux de Bourse Direct. Bonne soirée Romain et merci à tous de nous avoir accompagnés. Ce soir, le CAC 40 a donc progressé un peu de 0,25%. Dans un instant, Guillaume Paul, toute sa team, Audrey Tcherkov, Eddie Chevrillon, Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.